élémentaire. Mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur.
Chères auditrices, chers auditeurs d'élémentaire, mon cher Nico, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. Et si on prenait un peu de hauteur ? Ou peut-être beaucoup, on va monter à 300 mètres de haut, imaginez, fermez les yeux, on embarque sur la nacelle et on va se laisser grimper au-dessus de Paris, et arrivé en haut, on va prendre une grande bouffée de respiration, on va ouvrir les yeux et on va faire « waouh ». Tout simplement, magnifique, magique, et en plus, avec des notions importantes d'aider à la surveillance, notamment de notre qualité de l'air, mais également de la prise de conscience de celle-ci. Je parle bien assurément et bien naturellement du ballon Generali, du ballon d'aérophile, puisque c'est aérophile que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur l'émission avec Jérôme Giacomoni. Bonjour mon cher Jérôme.
Salut Nicolas.
Comment vas-tu ?
Bah écoute, je suis ravi de revenir à cette émission où je suis venu pendant le Covid, tu te souviens, c'était une sacrée époque.
C'était une sacrée époque, c'était une époque pas très joyeuse à un moment donné, et on avait dû faire ça à distance, je me souviens. On n'a pas pu être en présentiel, et là c'est le plaisir de te recevoir. On s'est croisé de nombreuses fois, mais là on se retrouve et très heureux de te retrouver, et notamment ce ballon, on en parlait, ce ballon qui est dans le parc André Citroën à Paris. Il y a un autre ballon et d'autres ballons qui existent, mais il y en a un qui est maintenant très célèbre, on viendra dessus tout à l'heure. Moi j'ai envie de te poser une question, mais d'où vient cette idée, toi et Mathieu, et surtout quelle belle histoire, raconte-la nous.
Bah, Mathieu et moi, on est pilotes de montgolfière, on a volé ensemble quand on était étudiants, et on a découvert qu'en 1878, Henri Giffard avait inventé le grand ballon captif pour l'Expo universelle qui avait lieu en 1878, et comme par hasard, c'était aux Tuileries. Et donc imagine, Nicolas, que notre premier projet, c'était d'être allé proposer aux Tuileries, donc au Louvre, un ballon captif aux Tuileries. Et on a mis 32 ans pour le faire, mais maintenant il est là, et tout le monde a la chance de voir cette fameuse vasque olympique poétique, qui nous permet de continuer de vivre le rêve des JO.
Comme quoi la beauté transporte le monde.
Exactement, il faut de la poésie dans le monde, ça fait du bien. Et donc le ballon, c'est un objet poétique, mais aussi un objet scientifique, et ça on va en parler.
Alors justement, cet objet scientifique, parce que tu dis 32 ans pour arriver aux Tuileries, 32 ans pour faire briller encore plus les yeux de tout le monde, petits et grands, mais au début de ces 32 ans, c'était le parc André Citroën ?
Non, on a commencé au château de Chantilly. En fait, comme le Louvre à l'époque n'avait pas pu nous dire oui pour des tas de raisons qu'on peut comprendre, on était allé voir le château de Chantilly, et le château de Chantilly cherchait à attirer plus de public, et c'est là qu'on a mis notre premier grand ballon captif, qui a été un gros succès, et depuis on en a vendu 120 dans 45 pays.
120 dans 45 pays, c'est beau ça.
Bah oui, écoute, on est au-dessus des chutes du Niagara, des temples d'Angkor, de Berlin, de Budapest, à Los Angeles, on est à Porto Rico, voilà, on a une longue liste au Séoul, et donc c'est très chouette que nous Français, puisque c'est les Français qui ont inventé le ballon en 1783, les frères Montgolfier et le physicien Charles, on ait cette chance de pouvoir faire durer ce rêve, de pouvoir permettre à tous, pour un prix très raisonnable, puisqu'un vol en ballon Generali, c'est 20 euros, de s'envoler avec le moyen le plus écologique qui existe, puisqu'on est le seul aéronef électrique, homologué pour le grand public, puisque le ballon ne consomme pas plus d'électricité qu'un ascenseur, une électricité décarbonée grâce à EDF.
Mais un ascenseur où tu mets beaucoup de monde pour grimper.
On peut monter jusqu'à 30 passagers. Alors c'est vrai qu'on va pas très loin, c'est des vols stationnaires, mais ça reste un aéronef et ça reste électrique. Et donc tout le monde qui vient voler, non seulement profite de la beauté du paysage, mais enrichit son karma puisqu'il ne consomme pas de CO2.
Alors justement, ce ballon, parce que le point de vue également, tu parlais de niveau scientifique, on parlait de cette qualité de l'air et de ce qui se passe au-dessus de notre agglomération parisienne, puisqu'il y a quand même une surveillance importante. On a vu qu'il y avait des progrès largement qui se sont faits depuis des années. Quand on s'était vu pendant la Covid, on avait évoqué tous les deux que d'arrêter la circulation autour de Paris avec la Covid, on avait baissé de 27% d'un seul coup toutes les émissions de polluants, que le ballon avait permis aussi de mesurer et de connaître. Cette excellence scientifique européenne, en plus, embarquée pour agir aussi sur les risques, non seulement de santé, mais aussi climatiques. Détaille-nous un petit peu ce qu'il y a sur le ballon, ce qui était mesuré à son départ. Et là, je sais que depuis peu, puisque l'inauguration a eu lieu au mois de juin dernier, c'était ça ?
Avril.
Avril, oh, ouais. Bah, tu vois, je suis en retard, mais j'y étais en plus, ouais. C'est pas bien d'avoir la mémoire qui flanche. Mais du coup, ça va un peu plus loin que ce qu'on avait avant, ça progresse.
Oui, parce que, en fait, si tu veux, l'air, c'est deux choses. C'est, bien sûr, les polluants pour la santé humaine, mais c'est aussi les polluants pour le réchauffement climatique. Et en fait, le ballon, comme il est électrique, comme il n'émet aucune sorte de polluant lui-même, il va faire une carotte de l'air. En plus, il est toujours au même endroit. Donc, il va monter de 0 à 300 mètres. Et si tu mets des instruments sur la nacelle, ce qu'on fait, eh bien, finalement, tu vas avoir une carotte de l'air. Au lieu de poser un instrument quelque part en ville où tu as une mesure à un point, là, tu as une mesure sur une ligne.
De 0 à 300.
De 0 à 300. Et donc, pour les scientifiques, c'est un outil extraordinaire parce qu'ils peuvent intégrer leurs mesures et mieux voir quelles sont les évolutions des polluants en fonction de l'altitude et en plus d'avoir des chiffres moyens de pollution pendant la journée. Donc, on a commencé.
Ça permet d'avoir aussi, excuse-moi de te couper, un niveau et des strates de différents polluants, de savoir jusqu'à quel niveau on va les retrouver. Je pense notamment aux particules fines.
Alors, bien sûr, ça permet, on a fait de nombreuses publications scientifiques et ça a permis. Nos auditeurs doivent écouter ça parce que c'est quelque chose d'amusant. En fait, on avait installé à partir de 2010 un instrument qui s'appelle le LOHAC, qui est un compteur optique à partir d'un rayon laser et qui mesure les particules fines très précisément. C'est-à-dire que d'habitude, on les pèse, tu vois, laisse un instrument, on attend que les particules fines se posent et puis on dit, tiens, il y a tant de poids. Mais en fait, en faisant ça, on a un mauvais chiffre parce que les plus grosses vont bien sûr extrêmement influencer la mesure. Mmh. Alors qu'avec le LOHAC, on les compte par catégorie. Donc, on a 20 catégories de 200 nanomètres, c'est-à-dire 0,2 micromètres jusqu'à 10 micromètres. Et on voit en fonction des catégories combien on a de particules.
10 micromètres qui sont les particules fines, qui sont les pollens.
Alors les pollens sont entre PM1, PM10.
Quand on va vraiment très bas, hein, à 0,02,
À 0,2, t'es presque au Covid. Hein. Enfin, c'est ça. Les virus, c'est autour de 0,1. Mm. Et puis encore en dessous, c'est les particules secondaires. Donc c'est tout ce qui est la création avec les gaz qui s'agglomèrent et qui font des particules. Eh bien, grâce à ces mesures, on a découvert qu'en décembre 2012, à une période où c'était très pollué, parce qu'on avait eu un phénomène d'inversion de température, tu sais, c'est les journées d'hiver où il fait très beau, mais très froid, et là, il n'y a pas un pet d'air, rien ne bouge.
Et tout stagne en
tout
plus.
Tout stagne, ça se concentre, et pof, on arrive à battre tous les records en nombre de particules ultra fines et fines, mesurées par le LOHAC. Alors que les instruments de mesure n'avaient pas obligatoirement vu, parce qu'en poids, c'était pas beaucoup. Parce que souvent, les chauffages, les choses qui sont très chaudes, cassent vraiment les particules, sont des toutes petites. Et donc, on avait démontré qu'on avait autant de particules fines dans une pièce de 20 mètres carrés que si t'étais avec 6 fumeurs. Toi-même, t'étais pas fumeur, mais t'étais un fumeur passif. C'était passé dans la presse, cette étude scientifique faite par le CNRS était passée dans la presse, le lundi. On avait fait la une de TF1, la une du Monde, etc. Et le vendredi, Manuel Valls annonçait à l'Assemblée nationale la création des vignettes critères. Donc, c'est pour montrer que la science, puis la communication, permettent finalement des avancées majeures de santé publique. Là, on en vit en ce moment plutôt des reculs, mais enfin, on voit la pétition, c'est quelque chose de fantastique ce qui se passe.
C'est ce que j'allais dire également. À un moment donné, la science, elle n'est pas là pour emmerder le monde.
Non, elle est là pour...
Au contraire.
Elle aide.
Je suis un peu trivial sur le mot, mais il y a un moment donné, c'est vrai qu'il faut l'écouter. Et aussi, on a tout un tas de scientifiques qui sont totalement, je dirais, autonomes dans leur pensée et dans leur manière d'agir sur les sujets. Et le partisanie sur certains points est vite balayé, ça nous l'a démontré là.
Mais t'as parfaitement raison, Nicolas. La science, déjà, elle mesure. Et en mesurant, on comprend. Sans mesure, impossible de comprendre. Donc en fait, on mesure les particules fines. Après, plein de laboratoires du CNRS sont venus nous voir parce que finalement, le ballon était un outil extraordinaire de mesurer les basses couches de l'atmosphère en pleine ville, en permanence, 7 jours sur 7, avec un coût zéro. Puisque finalement, le coût est supporté par l'assureur Generali qui, lui, cherche à améliorer la santé de tout le monde et donc participe à la science et aux passagers qui viennent aider aussi à supporter le coût de l'exploitation du ballon. Donc on a un outil scientifique fantastique pour les chercheurs. Donc on a mesuré les particules fines depuis maintenant une quinzaine d'années. On mesure l'ozone, ce gaz qui, on sait bien, comme tu l'as très, très bien dit, que grâce à une politique active de la ville de Paris, la pollution de l'air a été divisée par deux dans les 20 dernières années. Mais il y a un polluant qui résiste et qui au contraire même augmente à cause du réchauffement climatique, c'est l'ozone. Donc on l'étudie de près. Et puis alors après, il y a un autre aspect.
Cet ozone qui va en croissant vu à un moment donné qu'on va avoir d'un ensoleillement et de la puissance des rayons lumineux qui le génère au regard regard des polluants qui sont au niveau du sol.
C'est ce qu'on
voit. Voilà, donc ça, c'est assez colossal. Il faut en avoir vraiment conscience, parce que ça ne va pas être une rigolade dans les années à venir.
C'est un polluant irritant, effectivement, et l'ozone doit être suivi de très près. Et effectivement, moins il y aura de dégagement d'oxyde d'azote par les véhicules chauds, moins il y aura d'ozone. Donc les deux vont de pair, donc il faut aussi diminuer les oxydes d'azote pour diminuer l'ozone.
Et puis, d'où la directive de l'air ambiant du 23 octobre de l'année dernière au niveau européen, que la France doit retranscrire dans les deux ans, et qui divise par deux ces niveaux.
Voilà, exactement. Et pareil pour les particules fines, on a aussi une baisse des niveaux avec les recommandations de l'OMS. Deuxième aspect, et ça on l'a lancé en avril, c'est l'étude des gaz à effet de serre. Donc les gaz à effet de serre, c'est quoi ? Bon, évidemment c'est la vapeur d'eau, mais ça on en a besoin, même si le cycle de l'eau a été perturbé et crée ces grandes pluies, ces grands orages qu'on a, et puis des grandes périodes de sécheresse. Mais surtout le CO2, hein, le dioxyde de carbone, et le CH4, le méthane. Et donc, avec le LSCE, qui est la référence française, voire mondiale, du climat, hein, le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, qui est à Saclay, dans le cadre d'un immense programme européen qui s'appelle ICOS, dans lequel tous les meilleurs laboratoires européens travaillent, il y a une volonté de mesurer l'évolution des gaz à effet de serre en ville, pour savoir comment ça évolue, parce que c'est très important de savoir est-ce que Paris dégage plus de CO2 que Munich, et est-ce que Munich dégage plus de CO2 que la campagne. Et donc, ce programme a choisi le ballon Generali pour équiper d'un appareil de mesure extrêmement sensible. L'appareil, toutes les personnes qui viennent voler en ballon auront le plaisir de le voir. C'est un objet qui fait 80 kilos, qu'on a dû homologuer auprès de l'aviation civile européenne, parce que nous sommes un aéronef. Et donc, cet appareil mesure très précisément l'évolution du CO2 et du CH4, de 0 à 300 mètres. Et à partir de ces mesures, on peut déduire pour savoir si... Est-ce que les villes créent de plus en plus de CO2 ou de moins en moins de CO2? La bonne nouvelle, c'est qu'on est quand même en décroissance, puisqu'en fait, on a enlevé la voiture de la ville, puisqu'il y a plein de choses qui sont en train de se faire. Et donc, c'est grâce aux scientifiques qu'on vérifie que toutes les mesures qui sont parfois impopulaires ou compliquées ont un vrai effet sur la santé publique, ont un vrai effet sur le réchauffement climatique.
Donc, les aides des feux ne sont pas du tout inutiles?
De mon point de vue, évidemment que non. Je pense que on a vu une forte diminution à Paris de la pollution de l'air. C'est grâce aux efforts qui ont été faits par la ville de faire en sorte que les voitures les moins polluantes entrent dans la ville, les fameuses critères, et aussi de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de voitures qui traversent la ville pour rien et qui soient mises en dehors de la ville. Donc oui, bien sûr, il faut penser à la santé publique. C'est sûr que c'est compliqué parce que d'un côté, on a notre quotidien, on a envie de faire les trucs qu'on a envie de faire, et on pense pas que finalement, en respirant un air de mauvaise qualité, peu à peu, ça s'accumule et ça crée toutes les maladies qu'on connaît. Donc c'est ça qui est compliqué.
Tu veux que je te raconte une anecdote? Tout simplement, quand je prépare les émissions, j'interroge beaucoup de personnes que je croise dans la rue, que je connais pas du tout. J'aime bien avoir un petit peu le sentiment et le poumon de réflexion de nos concitoyens et de toutes ces personnes. Et quand on lance un petit peu le sujet sur la cigarette, en fin de compte, les plus grands défenseurs de fumer, ce sont les non-fumeurs. Parce qu'ils considèrent ça que c'est un droit de faire ce qu'on veut. Oui, peut-être, mais est-ce que celui qui fume a le droit de te rendre malade ?
Non, mais c'est exactement
donc,
ça.
C'est vraiment un paradoxe qui m'étonne toujours de plus en plus. Et quand on dit, telle zone qu'on a eu récemment, depuis le 1er juillet, ne pas fumer sur les plages, dans les parcs publics et autres, et devant les écoles notamment, y a cette chaîne qui dit que les fumeurs, ils trouvent ça très bien. Mais les non-fumeurs, ils disent, on peut pas empêcher les gens de faire ce qu'ils ont envie. Vaste débat, sujet plutôt de
c'est
progression.
C'est pas un vaste sujet, c'est un sujet déjà entendu. Oui. La santé publique est plus importante que le plaisir de quelqu'un d'allumer une cigarette dans une salle avec des enfants. Ça, c'est certain.
Et c'est d'autant plus posé, puisque l'émission précédente, on en parlait justement, cette étude qui montre que 57% des personnes considèrent, à 57%, que le premier des sujets et le sujet majeur, c'est la santé. C'est plus le logement, c'est plus ce qu'on avait avant sur le l'emploi ou autre, c'est la santé.
Vieillir en bonne santé, c'est quand même un objectif pour tout le monde.
Ah ben c'est ça. Hein. Moi je suis un ancien bébé, je revendique et puis je vais rester longtemps avec ma physiologie la plus profitable possible. Bien évidemment, C'est à cette condition-là qu'on sera tous bien les uns avec les autres. Tu parlais des différentes mesures qu'on trouve sur le ballon, tu parlais de l'analyse de la qualité de l'air par les gaz à effet de serre, indicateur du changement climatique d'une part, mais aussi la concentration en pollen, parce que c'est vrai que c'est une alerte importante selon ces périodes qu'on va trouver dans l'année, mais des périodes d'autant plus importantes qu'elles s'allongent avec le changement climatique.
Oui, alors, les chiffres sont effarants. En 1970, seuls 7% de la population était sensible au pollen. En 2025, on est 25%. Et les projections amènent à 2050 avec 50% de personnes sensibles au pollen.
Voire même un peu plus.
Voire plus, oui. Tu connais sans doute mieux les chiffres que moi. Et donc, en fait, on a peut-être que effectivement le réchauffement climatique font des zones pollenniques plus longues, des durées de pollen plus longues. Peut-être que on est moins habitué à la campagne, à des doses de pollen. Je ne suis pas médecin, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on constate. Par contre, ce que je peux dire, c'est que grâce à un appareil qui s'appelle le LIFIER, hein, c'est une société, une start-up française qui s'est lancée, à partir du LOAC, puisque le fameux LOAC a été adapté pour mesurer justement les pollens, hein, donc les plus grosses particules, celles qui sont quelques micromètres, eh bien, on identifie aussi les pollens, on identifie les types de pollens, et donc à bord du ballon, on a mis un appareil qui mesure les pollens, et grâce à Jean-Baptiste Renard, qui est chercheur au CNRS, il a fait une publication, et c'est la première publication sur ce domaine qui montre comment le pollen se répartit de 0 à 300 mètres d'altitude, comment le pollen est transporté en fonction de sa typologie, de son poids, etc. Et donc, c'est très intéressant de voir comment le pollen se répartit avec le vent, avec la distribution dans l'atmosphère de Paris.
Au travers de ces études ou ces expériences, notamment, et ces relevés qui sont faits grâce au ballon, est-ce que ces études, on les retrouve sur votre site ou à d'autres endroits?
Tous les jours, tu peux aller sur le site internet ballondeparis.com et tu vas voir combien il y a d'ozone dans l'air, combien il y a de particules fines. Et ensuite, on a un partenariat avec Copernicus. Ah. Tu sais, Copernicus, qui est un grand programme européen, qui est à la fois très connu et peu connu. Donc, c'est un programme européen qui mesure tout sur Terre et qui est là pour surveiller la Terre et pour nous aider, nous, citoyens. Et donc, on travaille avec Copernicus et le CMWF. Le CMWF, c'est la météo européenne. Hein, c'est la météo européenne. Et eux, ils ont en charge l'atmosphère et le réchauffement climatique. Et donc, quand tu entends à la radio que le mois de juin 2025 a été le troisième mois le plus chaud jamais enregistré, c'est Copernicus qui donne ces informations. Elle récupère ces données depuis les satellites qu'elle a. Elle a 10 satellites tout autour de la Terre qui mesurent en permanence. Et donc, elle a des données irréfutables. C'est la science, c'est des mesures. Et donc, avec Copernicus, on a décidé de sensibiliser le grand public sur le réchauffement climatique en donnant des chiffres. Et les chiffres sont assez effrayants. Puisque en 2024, la planète Terre était 1,56 degrés plus chaude que pendant la période qu'on appelle la période de pré-industrialisation, c'est 1850-1900. Ça, c'est déjà une nouvelle, on a dépassé les fameux 1,50 de l'accord de Paris, mais l'Europe se réchauffe deux fois plus vite. L'Europe se réchauffe deux fois plus vite pour des tas de raisons que je pourrais expliciter si on a le temps, mais en gros, l'Europe c'est 2,96 degrés. Mmh. Alors, on dit pas aujourd'hui qu'on a dépassé 1,50, parce qu'en fait, il faut, comme c'est de la climatologie, il faut qu'il y ait au moins 10 ans de référence, mais Copernicus a projeté ces chiffres et pense que en septembre 2029, on aura dépassé le seuil de 1,50 des accords de Paris. Les accords de Paris ont eu une immense vertu, un immense intérêt, c'est de donner un chiffre. C'est de faire comprendre au public que 1,50, c'est déjà beaucoup trop. Et donc là, on voit, grâce aux accords de Paris, que 10 ans après les accords de Paris, parce que les accords de Paris, leur 10e anniversaire, c'est en novembre, ou même en décembre, c'est le 12 décembre, on est déjà beaucoup trop avancé dans ce réchauffement climatique. Donc le ballon, il a un objectif à la fois scientifique.
D'autant plus, tu parles de scientifique, mais de prise en compte. Nous, on le voit dans la conception des bâtiments et des réglementations qui sont associées. On retourne sur les 30 dernières années météorologiques pour considérer nos bâtiments. Alors qu'on voit bien, toi tu le vois tous les jours, l'accélération c'est sur les 5 dernières années. Et notre projection des années à venir c'est sur ces années courtes finalement et pas sur quelque chose d'aussi long que l'on avait puisqu'il y a une accélération manifeste.
Il y a 0,2 degrés tous les 10 ans.
Colossal.
Donc c'est colossal et il y a effectivement peut-être des boucles de rétroaction négatives puisqu'en fait, là par exemple, il y a eu un article qui est passé, le fait que la Chine ait drastiquement réduit sa pollution de l'air, ce qui est très bien pour les poumons des Chinois, eh bien, ça a augmenté le réchauffement climatique parce que les polluants soufrés renvoyaient la lumière. Oui. Donc, tu vois, tu as des cercles. De même,
tous les effets induits, hein, tous les effets indirects, les cocktails.
L'autre effet, hélas, très connu, c'est l'albédo. En fait, la neige diminue, les surfaces blanches diminuent, donc ça réchauffe de plus en plus et ça va dans le mauvais sens.
C'est ça.
Donc, on est dans une situation très critique. Autant sur la qualité de l'air, on peut dire quand même que grâce aux efforts de quelques hommes politiques courageux, la qualité de l'air s'est améliorée. Et grâce à des associations comme Respire, à des travaux comme le fait le CRQA, qui fait un excellent travail. Mais malgré tout, la qualité de l'air, c'est des enjeux fondamentaux. Mais il y a un autre enjeu qui est beaucoup plus compliqué parce qu'il est au niveau mondial, c'est le réchauffement climatique. Et donc le ballon. Parce que tout ça, c'est une question d'atmosphère, c'est une question de cette petite couche d'air qui fait quelques dizaines de kilomètres d'épaisseur. C'est là que tout se fait. Eh bien, à nous de faire en sorte de faire connaître, d'aider les scientifiques à mieux comprendre et à mieux mesurer, et puis voilà, de diffuser les idées qu'on peut faire.
Retrouvez le tout, tu disais, ballondeparis.com, et je vous invite tous à aller retrouver le ballon, justement, de Paris, au parc André Citroën. Pour regarder, il y a tout un tas de capteurs dessus, il y a des indications, hein. Le ballon réagit aussi en couleur.
Voilà, hein, le ballon, alors tous les soirs, le ballon change de couleur en fonction de l'indice atmo, donc vous savez quel est l'indice atmo du jour grâce à la couleur du ballon, et puis je vous invite tous à venir voler au ballon Generali, c'est une expérience extraordinaire, vous allez voir Paris de haut et vous allez enfin voir la Tour Eiffel les yeux dans les yeux.
C'est ça, et aussi... On va dire cocorico, mais quelle magie qui a été portée pour des milliards de personnes sur la planète. Ce ballon des JO, évidemment, cette vasque.
La vasque olympique, ça aussi.
En quelques courts mots, on arrive au bout de l'émission, mon cher Jérôme.
Eh ben alors, écoute, elle est là tous les soirs. Enfin, tout le monde peut aller la voir. Hein. Tout le monde peut entrer librement la journée dans le jardin des Tuileries. Et le soir, on la fait décoller, si la météo nous le permet, à 22h30. Pour un vol jusqu'à 1h du matin. Et c'est vrai que c'est un spectacle magnifique de voir cette jolie vasque voler au gré du vent, avec cette conçue par Mathieu Lehaneur, financée grâce à EDF et grâce aux soldes des JO. Il ne faut pas l'oublier, c'est quand même de l'argent qui vient à la fois d'EDF et du solde, du succès, hein, parce que tu sais qu'il y a une soute de plusieurs dizaines de millions du COJO, et ils ont voulu transmettre et continuer à donner cette belle image de la France avec le ballon vasque olympique. Donc on est ravis de pouvoir l'exploiter pour le compte d'EDF et de la présidence de la République.
Eh bien, on a pris plein d'étoiles dans les yeux au travers du ballon qui va nous emmener. La France est belle, on va dire
la,
ça.
La France est magnifique.
Et l'intégralité de ses acteurs aussi. Hein, on est tous en raison acteurs de notre nation et du rayonnement et des exemples qu'on peut donner partout. Soyons vigilants et soyons acteurs de tout cela. Hein. Renseignons-nous, prenons le temps, tu l'as dit, le scientifique, à un moment donné, c'est irréfutable, et à un moment donné, il faut pas se dire non, j'ai raison plus que les scientifiques. Avoir raison sur des personnes qui viennent de passer 4 ans à étudier quelque chose de sérieux, ça s'efface pas en un coup de doigt, simplement parce qu'on a envie de voter quelque chose qui est peut-être plus ou moins sérieux, tout simplement. Merci beaucoup, mon cher Jérôme, mes amitiés à Mathieu et à toute ton équipe, et puis à très bientôt sur le plateau d'Élémentaire, et puis n'hésitez pas, le ballon Generali, il est au parc André Citroën pour vous accueillir, celui des JO, il est au parc des Tuileries, mais finalement...
Il y en a aussi à Disneyland Paris.
Évidemment, c'est
aussi. On a un troisième ballon en région parisienne à Disneyland Paris. Ceux qui vont à Disney, n'hésitez pas sur le lac, là, à côté de l'hôtel New York.
N'hésitez pas à vous envoler pour rêver. Et surtout, prenez soin de vous et profitez bien de cet été et de cette reprise qui va approcher. À très bientôt. Merci, Jérôme.
Merci, Nicolas. Ravi. À bientôt. Salut.
À bientôt.
Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Immo et sur toutes les plateformes.